lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Répondérons de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Je sais à quel point cette histoire pourra semer de troubles et d'angoisses, à quel point elle perturbera de gens. Je me doute que l'éditeur qui acceptera de prendre en charge ce manuscrit s'exposera à d'infinis ennuis. La prison ne lui sera sans doute pas épargnée, et je tiens à lui demander tout de suite pardon pour le dérangement. Mais il faut que j'écrive ce livre sans plus tarder, parce que si on me retrouve dans l'état où je suis maintenant, personne ne voudra ni m'écouter ni me croire. Or, tenir un stylo me donne de terribles crampes. Je manque aussi de lumière, je suis obligée de m'arrêter quand la nuit tombe. Et j'écris très, très lentement. Je ne vous parle pas de la difficulté pour trouver ce cahier, ni de la boue qui salit tout, qui dilue l'encre à peine sèche. J'espère que l'éditeur qui aura la patience de déchiffrer cette écriture de cochon voudra bien prendre en considération les efforts terribles que je fais pour écrire le plus lisiblement possible. L'action même de me souvenir m'est très difficile. Mais si je me concentre très fort et que j'essaie de remonter aussi loin que je peux, c'est-à-dire juste avant les événements, je parviens à retrouver des images. Il faut avouer que la nouvelle vie que je mène, les repas frugaux dont je me contente, ce logement rustique qui me convient tout à fait et cette étonnante aptitude à supporter le froid que je découvre à mesure que l'hiver arrive, tout ceci ne me fait pas regretter les aspects les plus pénibles de ma vie d'avant. Je me souviens qu'à cette époque où tout a commencé, j'étais au chômage et que la recherche d'un emploi me plongeait dans des affres que je ne comprends plus maintenant. Je supplie le lecteur chômeur en particulier, de me pardonner ces indécentes paroles. Hélas, je ne serai pas à une indécence près dans ce livre. Et je prie toutes les personnes qui pourraient s'en trouver choquées de bien vouloir m'en excuser. Je cherchais donc du travail. Je passais des entretiens, et puis ça ne donnait rien. Jusqu'à ce que j'envoie une candidature spontanée, les mots me reviennent, à une grande chaîne de parfumerie. Le directeur de la chaîne m'avait prise sur ses genoux et me tripotait le sein droit, et le trouvait visiblement d'une élasticité merveilleuse. À cette époque-là de ma vie, les hommes s'étaient tous mis à me trouver d'une élasticité merveilleuse. J'avais pris un peu de poids, peut-être 2 kilos, car je m'étais mise à avoir constamment faim, et ces deux kilos s'étaient harmonieusement répartis sur toute ma personne. Je le voyais dans le miroir. Sans aucun sport, sans aucune activité particulière, ma chair était plus ferme, plus lisse, plus rebondie qu'avant. Je vois bien aujourd'hui que cette prise de poids et cette formidable qualité de ma chair ont sans doute été les tout premiers symptômes. Le directeur de la chaîne tenait donc mon sein droit dans une main, le contrat dans l'autre main. Je sentais mon sein qui palpitait. C'était l'émotion de voir ce contrat si près d'être signé. Mais c'était aussi cet aspect, comment dire, pneumatique de ma chair. Le directeur de la chaîne me disait que dans la parfumerie, l'essentiel est d'être toujours belle et soignée, et que j'apprécierais sans doute la coupe très étroite des blouses de travail, que cela m'irait très bien. Ses doigts étaient descendus un peu plus bas et déboutonnaient ce qu'il y avait à déboutonner. Et pour cela, le directeur de la chaîne avait bien été obligé de poser le contrat sur son bureau. Je lisais et relisais le contrat par-dessus son épaule. un mi-temps payé presque la moitié du SMIC. Cela allait me permettre de participer au loyer, de m'acheter une ou deux robes. Et dans le contrat, il était précisé qu'au moment du déstockage annuel, j'aurais droit à des produits de beauté les plus grandes marques deviendraient à ma portée, les parfums les plus chers. Le directeur de la parfumerie m'avait fait mettre à genoux devant lui, et pendant que je m'acquittais de ma besogne, je songeais à ces produits de beauté, et comme j'allais sentir bon, et comme j'aurais le teint reposé. Sans doute plairais-je encore plus à Honoré. J'avais rencontré Honoré le matin où, pour le 5e printemps consécutif, j'avais voulu ressortir du placard mon vieux maillot de bain. C'est là, en l'essayant, que je m'étais aperçu que mes cuisses étaient devenues roses et fermes, musclées et rondes en même temps. Manger me profitait. Alors, je m'étais offert un après-midi à l'Aqualand. Il pleuvait dehors, mais à l'Aqualand, il fait toujours beau et chaud. Aller à l'Aqualand représentait presque un dixième de ma pension d'insertion mensuelle, et ma mère n'a pas du tout été d'accord. Elle a même refusé de me donner un ticket de métro, et j'ai été obligée, pour franchir la barrière, de me coller contre un monsieur. Et il y en a toujours beaucoup qui attendent les jeunes filles aux barrières du métro. J'ai bien senti que je faisais de l'effet au monsieur, pour tout dire, beaucoup plus d'effet que je n'en faisais d'habitude. Il a fallu, dans les salons de déshabillage de l'Aqualand, que je lave discrètement ma jupe. Il faut toujours faire attention dans les salons de l'Aqualand, que les interstices des portes soient bien bouclés. Et il faut savoir s'éclipser dans le salon, car le salon est déjà occupé par les couples. Et là aussi, il y a toujours des messieurs pour attendre devant les portes côté femmes. On peut bien gagner sa vie à l'Aqualand, mais je m'y suis toujours refusée, même dans les moments où ma mère menaçait de me mettre dehors. Dans le salon désert, je me suis dépêchée de me déshabiller et d'enfiler mon maillot. Et là encore, dans le miroir doré qui donne bonne mine, je me suis trouvée, je suis désolée de le dire, mais incroyablement belle, comme dans les magazines, mais en plus appétissante. Je me suis savonnée avec des échantillons gratuits qui sentaient bon. La porte s'est ouverte, mais c'était seulement quelques femmes qui entraient, pas d'hommes, et nous avons pu jouir d'une certaine paix. Les femmes se déshabillaient en riant. C'était un groupe de musulmanes riches. Elles enfilaient pour se baigner des robes luxueuses et très longues. Sous la douche, leur corps se moulait dans les voiles translucides. Ces femmes m'ont entourée et se sont exclamées que j'étais belle. Elles m'ont offert un échantillon de parfum chic et quelques pièces de monnaie. Je me sentais en sécurité avec elles. L'Aqualand est un endroit de détente, mais il faut tout de même se méfier. C'est pour cela que lorsque Honoré m'a approchée, dans l'eau, j'ai d'abord fui en nageant vigoureusement le crawl. Et c'est peut-être ça qui l'a le plus séduit. À l'époque, je nageais très bien. Mais quand ensuite il m'a offert un verre dans le bar tropical, j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un de bien. On dégoulinait, là, tous les deux, dans le bar tropical. On transpirait dans nos maillots mouillés. J'étais toute rouge dans les nombreux miroirs du plafond. Et un grand nègre nous éventait. On buvait des cocktails très sucrés et très colorés. Il y avait de la musique des îles. Tout à coup, on était très loin. C'était le moment des grosses vagues. Honoré me racontait que pour certaines réceptions privées, on introduisait des requins dans la piscine. Les requins avaient 5 minutes avant de mourir dans l'eau douce pour croquer les invités trop lents. Cela mettait, paraît-il, une ambiance unique dans les fêtes. Ensuite, on se baignait dans l'eau rouge jusqu'au petit matin. Honoré était professeur dans un grand collège de banlieue. Les fêtes privées le dégoûtaient. Il n'allait même jamais au gala de ses étudiants. « Moi, j'aurais aimé faire des études, » lui ai-je dit. Et il m'a dit « Non, surtout pas. » Que les étudiants étaient tous pourris et dépravés, que lui venait à l'Aqualand pour rencontrer des jeunes filles saines. Honoré et moi, on a sympathisé. Il m'a demandé si j'allais parfois dans les réceptions privées. Je lui ai dit « Jamais, moi je ne connais personne. » Il m'a dit qu'il me présenterait des gens. Au début, c'est ça qui m'a attirée. Le fait que ce garçon, en plus d'être correct, me proposait des relations. Mais en fait, Honoré n'avait aucune relation. Il n'arrivait pas à s'en faire malgré son travail, et peut-être espérait-il, grâce à moi, se faire inviter dans des endroits sélects. Honoré m'a acheté une robe en sortant, dans les magasins chics de l'Aqualand. une robe en lazuré transparent que je n'ai jamais mise que pour lui. Dans le salon d'essayage du magasin chic, nous avons fait l'amour pour la première fois. Je me voyais dans la glace, je voyais les mains d'Honoré sur mes reins, ses doigts creusaient des sillons élastiques au creux de ma peau. Jamais, haletait Honoré, jamais il n'avait rencontré une jeune fille aussi saine. Les femmes musulmanes étaient entrées à leur tour dans le magasin chic. On les entendait bavarder dans leur langue. Honoré se rhabillait en me regardant. Moi, j'avais un peu froid toute nue. La dame du magasin proposait du thé à la menthe et des gâteaux. Elle nous en a passé par-dessous la porte du salon d'essayage. Elle était discrète et très chic. Je me disais que j'aimerais bien avoir un travail dans ce genre. Finalement, à la parfumerie, mon travail n'a guère été différent. Il y avait un salon d'essayage pour chaque parfum. La grande chaîne qui m'employait vendait des parfums en tout genre, qu'il fallait essayer sur divers endroits du corps. Attendre qu'ils virent bien ou mal, cela prenait du temps. J'installais les clientes sur les grands sofas des salons. Je devais leur expliquer que seul un corps détendu révèle toute la palette d'un parfum. J'avais suivi un stage de formation comme masseuse. Je distribuais des tamestas et des décoctions de duvet de cygne. Ce n'était pas un métier désagréable. Toujours est-il que lorsque les musulmanes sont parties, en laissant pour près de 5000 euros en internet card, la vendeuse très chic a vaporisé sous nos yeux des parfums aérosols dans tout le magasin. Jamais, ai-je dit à Honoré, jamais je ne laisserai aller à une telle faute de goût si je tenais un magasin chic. C'est là qu'Honoré m'a dit qu'avec un corps pareil et une mine aussi resplendissante, j'obtiendrais tous les magasins chics que je voudrais. Il s'est pas trompé finalement. Mais il ne tenait pas à ce que je travaille. Il disait que le travail corrompait les femmes. Pourtant, j'avais été déçue de voir que malgré son métier prestigieux, son salaire ne lui permettait de louer qu'un deux pièces miteux dans la proche banlieue. Je m'étais tout de suite dit que par simple honnêteté de ma part, il fallait que je mette les bouchées doubles pour l'aider. C'est à cette époque-là, dès les premiers jours à la parfumerie, que les clientes se sont mises à me dire que j'avais un teint magnifique. Je faisais une excellente publicité à l'établissement. La boutique s'était mise à marcher du tonnerre avec moi. Le directeur de la chaîne me félicitait. Il est vrai que l'uniforme de travail, une blouse blanche sérieuse comme dans les cliniques esthétiques, était saillant, coupé très près du corps, avec un profond décolleté dans le dos et sur les reins. Or, c'est à cette époque exactement que mes seins ont pris du galbé comme mes cuisses. C'en était arrivé à un point où j'avais dû abandonner mes bonnets B. Les armatures me blessaient. Je n'avais pas encore reçu mon premier salaire, à peine une petite avance parce qu'à la trésorerie, il avait une panne d'ordinateur, et je ne pouvais pas m'acheter de bonnet C. Mais le directeur me rassurait et disait qu'à mon âge, ça se tenait tout seul, que je n'avais pas besoin d'un soutien-gorge. C'est vrai que ça se tenait remarquablement bien, même quand je suis passée à la taille D. Mais là, j'ai craqué. J'ai acheté un soutien-gorge avec l'argent du pain que j'avais mis de côté petit à petit. Honoré m'a posé des questions. Il savait que je n'avais pas encore été payée, mais j'ai pris sur moi. Je n'ai rien avoué, même si cette petite trahison me tourmente encore. Pauvre Honoré, il ne pouvait pas savoir ce que c'est que de courir sans soutien-gorge après un bus avec un tel tour de poitrine. J'avais de plus en plus de clients masculins à la boutique, et ils payaient bien. Le directeur de la chaîne passait presque tous les jours pour ramasser l'argent. Il était de plus en plus content de moi. Mes massages avaient le plus grand succès. Je crois même que le directeur de la chaîne soupçonnait que je m'étais mise de ma propre initiative aux massages spéciaux, alors que normalement on laisse un petit peu de temps à la vendeuse avant de l'y inciter. Ce qui fait que, grâce à tout cet argent, je n'ai pas risqué de me faire licencier au bout de quelques semaines. Le directeur de la chaîne ne m'a poussé à rien, tout s'est passé dans la plus grande discrétion. Le directeur a été chic. Il m'a laissé tranquille un bon moment. Il devait penser que j'étais fatiguée par tout ce travail. Moi, je n'avais jamais été aussi en forme de ma vie, et cela n'avait rien à voir avec Honoré. Cela n'avait rien à voir non plus avec mon nouvel emploi, même s'il me plaisait bien. Ni même avec l'argent, puisque de toute façon, je ne l'ai touché que très tard, et en partie seulement. Et que cela n'aurait jamais suffi à mon indépendance. Non, c'était juste qu'il faisait, pour ainsi dire, toujours soleil dans ma tête, même dans le métro, même dans la boue de ce printemps-là, même dans les squares poussiéreux où j'allais manger mon sandwich le midi. Et pourtant, ce n'était pas si facile, objectivement. Il fallait que je me lève tôt, mais curieusement, dès le chant du coq, enfin, dès ce qui correspond en ville, je m'éveillais avec facilité, toute seule. Je n'avais plus besoin ni du tamestat le soir, ni d'excitril le matin, alors qu'Honoré et toutes les personnes autour de moi continuaient à s'engaver. Ce qui n'était guère confortable non plus, c'est que je n'avais jamais le temps de manger tranquillement. Et pourtant, j'avais faim. Cela me venait quand j'arrivais au square, une fringale terrible. L'air, les oiseaux, je sais pas, ce qui restait de la nature, ça me faisait tout à coup quelque chose. Mes copines plaisantaient. « C'est le printemps !» elles disaient. Elles étaient jalouses d'Honoré, et de me voir si belle en même temps, flattée qu'avec tous ces succès, je leur téléphone encore quelques fois. Ensuite, bon, bah, ce qui n'était pas gai parfois, c'était les clients. J'avais de moins en moins de clientes. Je crois qu'elles prenaient peur dans la boutique. Il y avait une drôle d'ambiance. Les clients essayaient parfois des choses que je n'aimais pas. Et en temps normal, ça aurait dû me déprimer. Mais là, non. J'étais gai comme un pinson. Les clients adoraient ça. Ils disaient que j'étais extraordinairement saine. Je devenais fière. Enfin, je veux dire, fière de moi. Mais ce n'était pas ça non plus qui me donnait ce moral terrible, cette impression excitante de commencer une nouvelle vie. Une de mes dernières clientes, une fidèle qui n'avait pas froid aux yeux, m'a mis la puce à l'oreille. Elle était chamane, au quotidien et extraordinairement riche. Je la massais quand elle m'a dit que c'était sans doute hormonal. J'ai répété ce que disaient mes copines, la poussée de sève du printemps. Mais la cliente a insisté. « Non, non, cela vient de vous, de l'intérieur de vous. Êtes-vous bien sûre de ne pas être enceinte ?» C'est ce mois-là que mes règles se sont arrêtées. Cette réflexion m'a, pour ainsi dire, coupé la chic. J'ai rien dit à Honoré. La cliente était assez âgée, elle avait une grande expérience de la vie. Je l'aimais bien. Elle était de celles qui veulent toujours bavarder pendant les massages. Je crois qu'elle était, comme qui dirait, frigide. Ça devait lui plaire de me voir si belle, si jeune, si saine, comme ils disaient tous, et de me savoir enceinte. Ça devait l'exciter encore plus, je ne sais pas comment dire, je sais pas. Il y a de moins en moins de bébés. Moi, je n'étais pas contre les bébés. Parfois, j'en voyais au square. En tout cas, j'avais de plus en plus faim, et la cliente reconnaissait ses symptômes de partout. « Avez-vous des envies ?» me demandait-elle. Elle venait se faire masser tous les jours maintenant. Les clients râlaient. Ils l'appelaient la vieille peau. Je n'avais pas d'envie. J'avais plutôt des dégoûts. « C'est pareil, » me disait-elle. Et elle demandait des détails. Je ne pouvais plus manger de sandwich au jambon. Cela me donnait des nausées. Une fois même, j'avais vomi au square. Ça faisait mauvais genre. Heureusement, il était trop tôt pour que les clients ou le directeur puissent me voir. Du coup, je m'étais mise au poulet. Ça passait mieux. « Vous voyez, » me disait la cliente, « vous avez des envies de poulet. Moi, pour mon premier fils, je ne supportais pas le porc. Enfin, de toute façon, quand on est enceinte, le porc, il faut absolument éviter à cause des maladies. » Je savais que la cliente n'avait jamais eu d'enfant. Un client m'avait dit qu'elle était lesbienne, que c'était l'évidence même. Mes règles ne revenaient toujours pas. J'avais de plus en plus faim, et pour varier mes repas, j'apportais des œufs durs, du chocolat. C'était difficile de trouver des légumes frais à des prix abordables. J'avais demandé à un client de m'en rapporter de sa maison de campagne. Il me donnait aussi des pommes. Il fallait voir comment je les mangeais, ces pommes. Je n'avais jamais passé assez de temps au square pour bien les croquer, pour bien les mâcher. Ça faisait plein de jus dans ma bouche. Ça craquait sous mes dents. Ça avait un goût. Mais quelques minutes de répit dans le square avec mes pommes, au milieu des oiseaux, ça faisait pour ainsi dire le bonheur de ma vie. J'avais des envies de verre, de nature. Alors je m'étais laissé convaincre pour un week-end chez ce client. J'avais prétexté un stage pour qu'Honoré ne dise rien. Mais j'ai été très déçue. La maison du client était belle, entourée d'arbres, isolée. C'était la campagne tout autour. Je n'avais jamais vu ça. Mais j'ai passé tout le week-end à l'intérieur. Le client avait invité des amis à lui. Par la fenêtre, je voyais des champs et des fourrés. J'avais envie, comme qui dirait, d'aller me mettre le nez là-dedans et de me vautrer dans l'herbe, de la humer, de la manger. Mais le client m'a gardé attachée tout le week-end. J'en aurais pleuré en revenant dans la voiture. Je ne voulais plus rien faire pour lui dans la voiture. Et puis sur l'autoroute, c'est dangereux. et ce chameau m'a jeté à la première porte de la ville sans ménagement. Il n'est plus jamais revenu au magasin. J'ai perdu un bon client. Je me suis mise à saigner en rentrant à la maison. J'avais très mal au ventre. Je pouvais à peine marcher. Honoré m'a dit que les femmes, ça a toujours des problèmes de ventre. Il a été gentil, il m'a payé un gynécologue. Le gynécologue a été plus pressé. Il m'a dit que j'avais fait une fausse couche. Et il a fourré plein de coton là-dedans et il m'a envoyé dans une clinique. Ça a coûté très cher, le curetage. Mais moi, je suis sûre que j'étais pas enceinte. Je ne sais pas ce qui m'a prise tout d'un coup de tenir tête au gynécologue. En tout cas, il s'est mis très en colère et il m'a traitée de petite grue. Je n'ai pas osé lui raconter ce qui s'était passé avec le client et ses amis. À la clinique, on m'a fait très mal. Et j'en suis sûre, ils m'ont fait mal pour rien. Il me semble que quand on est enceinte, on le sait. On doit le sentir sur son corps, une odeur de maternité en quelque sorte, enfin un truc comme ça. Et moi qui étais devenue si sensible aux odeurs, je ne sentais rien de ce genre sur ma peau. D'ailleurs, je suis persuadée qu'à part ma cliente un peu spéciale, les clients se seraient détournés de moi s'ils savaient deviner que j'étais enceinte. Ils m'aimaient saine, mais pas à ce point. J'ai un peu mal au ventre aujourd'hui encore de tout ce qu'ils m'ont fait à la clinique. Je suis restée femelle malgré tout, et ce qui me fait dire encore maintenant que je n'étais pas enceinte, c'est que, presque tout de suite après la prétendue fausse couche, mes règles se sont de nouveau arrêtées. Et les mêmes symptômes, la faim, les dégoûts, les rondeurs ont persévéré. Malgré ces quelques désagréments, à moins que tout ne soit lié, je gardais toujours un excellent moral. La vieille cliente m'aimait plus que jamais. Elle insistait, elle touchait mon ventre et me le montrait dans la glace. Il devenait lui aussi très rond, un peu trop à mon goût. Mais les clients continuaient à me trouver terriblement sexy. C'est tout ce qui comptait. Ils faisaient même la queue. La cliente passait beaucoup de temps avec moi. Elle était la dernière femme à venir au magasin et ma seule amie en quelque sorte parce que ma splendeur, comme elle disait, avait pour ainsi dire découragé toutes mes copines. J'aimais bien bavarder avec la cliente. Son corps ne me déplaisait pas. Je trouvais intéressant de voir comment j'allais devenir dans quelques années. Et je me suis bien trompée. La cliente m'offrait ses robes, encore métables, une fois même un bijou qu'elle n'aimait plus. La cliente a été assassinée. Un jour, elle n'est plus venue et on a retrouvé son corps dans le square, sous un arbre. Il paraît que c'était pas très beau à voir. À partir de là, j'ai souvent croisé une de ses amies tout en noir qui venait pleurer sous les arbres dans le square. C'est beau d'avoir de telles amies. Moi, je n'ai plus eu la cliente pour bavarder et je me suis retrouvée toute seule avec ce problème de mes règles. D'une certaine façon, j'étais soulagée de ne plus voir la cliente parce que moi, je savais bien que je n'étais pas enceinte, que c'est elle qui voulait que je le sois. Et à force, elle m'embrouillait la tête. Les clients, au moins, n'avaient pas ce genre de préoccupation. Ils ne me regardaient pas pour savoir comment j'allais. En fait, c'est d'eux qu'ils s'occupaient. Ça les rendait fiers de pouvoir me tripoter. Ça m'arrangeait, au fond, leur espèce d'indifférence, parce que je trouvais que je prenais un peu trop d'embonpoint et que c'était pas si joli qu'avant. Mais comme je ne recevais que les habitués à la boutique, je n'avais pas à craindre des regards nouveaux qui m'auraient, pour ainsi dire, vraiment vu. Tous mes clients savaient que j'étais à leur goût et ça leur suffisait. Ils n'allaient pas chercher plus loin. Un changement de ma personne leur aurait, de toute façon, paru incongru. Je crois que c'est le mot. C'est depuis que j'ai réfléchi à tout ça. Je commençais à bien les connaître, mes clients, d'autant plus que, pour pouvoir accueillir tout le monde, mon mi-temps s'était insensiblement transformé en plein temps. Il me venait de drôles d'idées, des idées que je n'avais jamais eues, je peux le dire maintenant. Je commençais à juger mes clients. J'avais même des préférences. Il y en avait que je voyais arriver avec un vrai déplaisir. Heureusement, je réussissais à ne pas le montrer. Je crois d'ailleurs que ces nouvelles idées et le reste s'étaient liés à l'absence de règles. Même si je gardais toujours cette curieuse bonne humeur, cette bonne santé, je supportais de plus en plus mal certaines lubies des clients. J'avais pour ainsi dire un avis sur tout. Je me taisais bien sûr, je m'exécutais. C'est pour ça qu'on me payait, mais je sentais que c'était mon corps qui ne suivait plus. Mon corps avec cette absence de règles. C'est mon corps qui dirige ma tête. Je ne le sais que trop maintenant. J'ai payé le prix fort, même si au fond, je suis bien contente d'être débarrassée des clients. Mais à l'époque, je croyais qu'on pouvait faire payer son corps les yeux fermés. Ça marchait bien, d'ailleurs. Ce n'est qu'à partir de ce moment où j'ai pris un peu trop de poids, avant même que les clients ne s'en rendent compte, que j'ai commencé à me dégoûter moi-même. Je me voyais dans la glace et j'avais peur. Pour de bon, des replis à la taille, presque des bourrelets. Maintenant, ce souvenir me fait sourire. J'avais essayé de réduire les sandwichs. J'en étais même arrivée à ne plus manger le midi. Tout ça pour continuer à grossir. Les photos des mannequins dans la parfumerie m'obsédaient. J'étais persuadée qu'il y avait comme un phénomène de rétention du sang dans tout mon corps. Je devenais rougeaude. Insensiblement, les clients prenaient des habitudes fermières avec moi. Ils ne se rendaient compte de rien, trop occupés d'eux-mêmes et de leur plaisir, mais le lit de massage devenait, sous leurs nouvelles envies, une sorte de meule de foin dans un champ. Certains commençaient à braire, d'autres à renifler, comme des porcs. Et de fil en aiguille, ils se mettaient tous, plus ou moins, à quatre pattes. Je me disais, si mes règles revenaient enfin, je me viderais de tout ce sang. Je deviendrais à nouveau fraîche comme une jeune fille. Et j'avais des envies de saigner. Les clients eux-mêmes étaient de plus en plus gras. J'avais mal aux genoux sous leur poids. Des étoiles me dansaient dans les yeux, je voyais des couteaux, des hachoirs. J'achetais pour la cuisine d'Honoré un matériel électroménager de plus en plus sophistiqué. Il appréciait beaucoup ses nouveaux penchants domestiques. Et puis, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Puisque je m'étais mise à réfléchir à tout, à avoir des idées sur tout, je ne pouvais plus, rationnellement, fermer les yeux sur mon état et me cacher que j'étais enceinte. J'avais pris 6 kilos en un mois, tout particulièrement au ventre, au sein et aux cuisses. J'avais de grosses joues rouges, presque un masque. J'avais faim sans arrêt. La nuit, il me venait de drôles de rêves. Je voyais du sang, du boudin, et je me levais pour vomir. J'ai honte encore aujourd'hui de ces rêves saugrenus, mais c'était ainsi. Je m'efforçais de comprendre. Parfois, j'avais d'étranges éclairs de certitude, une lucidité qui me montait du ventre. Ça me faisait peur. Être enceinte était le seul lien, pour ainsi dire, objectif et raisonnable entre tous ces symptômes. Honoré voulait que j'arrête de travailler. Il se méfiait. Il devait se douter de quelque chose. À côté de ça, il était fier de moi, paradoxalement. On parlait de ma parfumerie dans toute la capitale. C'était la plus chic. Des gens célèbres venaient me voir de loin. Honoré ne pouvait que constater ainsi les retombées économiques. Tout cet électroménager, par exemple. Et puis, il n'avait pas à se plaindre. À part quelques week-ends, je rentrais tous les soirs à la maison. De toute façon, je ne gagnais toujours qu'un tiers-temps. J'avais décidé de ne rien lui dire parce que, s'il avait su que j'étais enceinte, il aurait fait tout son possible pour me garder à la maison. J'aurais eu pendant 3 mois l'allocation pronatalité qui était bien supérieure à mon salaire, et après j'aurais été coincée avec Honoré. Je voulais conserver mon travail, et je ne sais pas très bien pourquoi au fond. Cela faisait comme une fenêtre. Je voyais le square, les oiseaux. De toute façon, si l'on m'avait su enceinte, je n'aurais pas pu le garder. Comment annoncer ça au directeur de la chaîne? C'était impensable. Il m'aurait accusé de ne pas avoir fait attention. Mais je ne gagnais pas assez pour pouvoir faire attention, et pour Honoré, c'était aux femmes de s'occuper de ces histoires de ventre. C'est aussi pour ça que je croyais que j'étais enceinte. Parce que je ne faisais pas attention. Il y a quand même une certaine logique biologique. Bon, même si le moins que je puisse dire maintenant est que j'en doute. Or, mon seul atout, c'était mon côté pneumatique. Et là, il faut bien avouer que je le perdais peu à peu. Encore un mois ou deux et je ne pourrais plus du tout entrer dans ma blouse. Mon ventre déborderait et déjà ce n'était plus si excitant que ça aux bretelles et au décolleté. La chair ressortait trop. Au premier déstockage, un an tout juste après mon embauche, j'ai eu droit à des fonds de poudre et je m'en suis mise tous les matins. Ça atténuait un petit peu mon côté fermière aux joues rouges. J'ai pu tenir encore un mois. Mais je grossissais de partout, pas seulement du ventre. Et mon ventre ne ressemblait pas du tout à celui d'une femme enceinte. Ça n'était pas un beau globe rond, mais des bourrelets que j'avais. J'avais quand même déjà vu des femmes enceintes, je savais à quoi ça ressemblait. Ma mère elle-même, il n'y avait pas si longtemps que ça, avait attendu le 5e mois avant de se faire avorter en pleurant, on avait trop besoin de son salaire à la maison. Je ne mangeais presque plus. J'avais des éblouissements le jour, des rêves absurdes toutes les nuits. Honoré se disait gêné par mes grognements. Ensuite, ça a été des cris perçants et il n'a plus supporté de dormir à côté de moi. Je dormais dans le salon. C'était plus confortable pour tous les deux. Moi, je pouvais me vautrer sur le côté comme j'aimais et ronfler. Je dormais pourtant de plus en plus mal. J'avais des poches sous les yeux que je tentais d'effacer à coups de d'anticerne Yearling, deux tubes gratuits reçus pour les étrennes. Mais l'anticerne était périmé et s'effritait. J'avais vraiment une drôle de touche. Il me venait des angoisses terribles à l'idée de cet avortement. Ils ne sont pas tendres avec les avortés. On dit même qu'on ne gâche pas une anesthésie pour ces femmes-là. Elles n'ont qu'à faire attention. Et puis il y a toujours ces commandos qu'il faut craindre. Mais j'étais pas trop au courant. À l'époque, je ne suivais pas les informations. Maintenant, je suis très loin de tout ça, heureusement. Je suis allée à la clinique. J'avais revendu en sous-main des rouges à lèvres ultra chic et je tremblais à l'idée de me faire prendre. Je suis restée que 6 heures. Le directeur de la chaîne n'a déjà pas du tout apprécié cette demi-journée fichue par terre. Il y avait un type enchaîné aux étriers de la table d'opération. Il psalmodiait quelque chose, mais ce crétin s'était enchaîné trop bas et il ne gênait pas vraiment. Il avait été obligé d'assister à tout, et quand la police est arrivée pour couper ses chaînes, vu qu'il avait avalé la clé, il était tout couvert de mon sang. À la clinique, ils lui ont dit qu'il ne ferait pas de vieux os s'il continuait à avaler des clés. Et à moi, ils m'ont dit que si je ne faisais pas attention, après ces deux curetages, je risquais de devenir stérile. Ils m'ont aussi dit qu'ils n'avaient jamais vu un utérus aussi bizarrement formé. Que je ferais bien d'en m'en soucier un peu, qu'il y a des tas de maladies qui traînent. Ils ont même gardé l'hystérographie pour l'étudier de près. Le type m'a raccompagnée. Il était tout pâle. Il m'a dit que je m'étais damnée pour toujours et que je ne pouvais pas, malheureusement, que j'étais... imaginer les conséquences de mon acte, que j'étais une fille perdue. Moi, je m'en fichais de tout ce qu'il disait. Je m'appuyais sur son bras pour rejoindre la parfumerie. Il était gentil, au fond. Sans lui, je n'aurais jamais pu marcher. Je me demandais comment j'allais faire pour ne pas mettre du sang partout et pour tenir le coup avec les clients. J'ai relevé le rideau de fer. Quand le type a vu l'enseigne, il est devenu encore plus pâle. Il s'est écarté et il a pointé 2 doigts sur moi. Il a dit que j'étais une créature du diable. Il me regardait, tout d'un coup. Il me scrutait, pour ainsi dire.
« La marque de la bête !»
il a hurlé. Moi, ça m'a un peu retourné qu'on puisse dire ça en me regardant. Le type s'est enfui en courant et je me suis regardée dans la glace. Et...
lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, du coup, c'était lu et approuvé. Ce soir, on vous a lu Truisme de Marie Dariussec. Alors, ça paraît un peu bancal comme ça, parce que c'est un bouquin qui n'est pas très épais, mais qui, du coup, est dur, en fait, à lire qu'une seule partie, parce que c'est la transformation d'un personnage sur toute la durée du livre. Donc, voilà, j'ai essayé de sélectionner un extrait et de vous donner envie de lire la suite. Ouais. Voilà.
Si, si, c'est vrai. Ça marche.
Voilà, du coup, voilà, c'était de Marie Dariussec, et c'est paru aux éditions POL.
Bah, vous trouverez toutes les infos des livres qu'on lit, les musiques qu'on passe, ce soir on n'en a pas passé, sur notre blog ou sur la page de notre émission sur le site de Canal Sud. Alors notre blog c'est luetapprouvé.noblogs.org et la page, vous tapez canalsud.net et vous tapez après luetapprouvé, vous trouverez. Pour nous écrire, il y a deux moyens, il y a par mail... luetapprouvé@guyade.org, Guyade c'est G-W-I-A-D, et luetapprouvé c'est tout attaché et sans accent. Et sinon vous pouvez aussi nous envoyer des lettres à émission luetapprouvé Radio Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Et puis voilà, vous pouvez nous réécouter sur le blog, etc. Et sinon c'est chaque mercredi à 23h30 sur Canal Sud.
Yep.
Bonne soirée.
Bonne nuit.
Bonne nuit à vous.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un
simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.